Vous êtes sur RTL.
Il est midi et demi.
RTL.
Hôtellerie Passy, c'est pas du gâteau. Hôtellerie Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien?
Le journal inattendu.
C'est ton destin.
Le type qui n'a pas été cherché, c'est 162 millions d'euros. C'est toi?
Je sais très bien ce que tu m'aurais dit si je t'avais parlé de mes doutes.
Oui, vas-y.
Prends l'argent, mon chéri, on réfléchira après.
Mais évidemment!
12h30, 13h30.
Eh, hey, oh, y a pas le feu, là? Hein? C'est moi l'animateur, ok? Hey!
Non, mais moi, j'ai succès fou, moi. J'ai RTL, moi.
Le journal inattendu de Pascal Légitimus avec Vincent Parisot sur RTL.
Bah oui, c'est vous l'animateur. Bonjour Pascal Légitimus.
Bonjour Monsieur Vincent RTL.
Et merci d'être pour une heure ce rédacteur en chef du journal inattendu à une dizaine de jours de la reprise au Bouffe Parisien de Non à l'argent. Alors c'est une pièce de Flavia Coz dans laquelle vous êtes un grand gagnant du loto qui refuse d'aller retirer son gain. Et réunit sa femme, sa mère et son meilleur ami pour leur annoncer la bonne nouvelle. On va donc parler d'argent.
Non. Oh, chouette.
Très, très peu. Mais de vous, beaucoup, de votre carrière d'acteur, d'auteur, de metteur en scène. Des inconnus, bien sûr. D'autant que plus de 9 millions de téléspectateurs, hier soir, et ceux qui avaient assisté à Bordeaux aux Enfoirés, ont pu vivre ce moment historique, la reformation de ce trio mythique. Et on va pas, évidemment, se priver d'en profiter aujourd'hui dans le journal inattendu. Donc on va rire, mais pas que. Votre reportage va nous emmener dans un endroit formidable et assez improbable, les Grands Voisins, lieu d'accueil humanitaire, solidaire, artistique dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Et puis après 13 heures, votre invité sera Gilles Verviche, pop philosophe, dit-on, devenu l'un de vos amis. Il y aura des surprises, vous pourrez commenter l'info dans un instant. Mais avant cela, Pascal Légitimus, c'est la tradition dans cette émission, il faut vous tirer le portrait.
Faut que je me tire le portrait, donc je... D'accord, très bien, écoutez, je vais... Allons-y, c'est parti, mon kiki. Je suis né d'un père antillais et d'une mère arménienne. On peut donc dire que je suis d'origine cocasse-cocotier. Mais malgré moi, issu de deux drames historiques. D'un côté, le génocide généré par l'esclavage, et de l'autre, le génocide arménien. Par conséquent, vous comprendrez que je n'avais que l'humour pour m'en sortir. À l'heure des bilans, je me considère aujourd'hui comme un être humain pas dramatique, plutôt mélancomique, qui n'a pas froid aux yeux, mais chaud au cœur. Un acteur et à la fois aussi un réacteur, car il y a beaucoup de choses autour de moi qui m'énervent. Un réalisateur qui n'aspire qu'à une chose, transmettre et mettre en transe. Et pour conclure, le mot qui me définit le plus, c'est harmonie.
Eh bien c'est très beau, je retiens mélancomique et puis réacteur. Je pense que le réacteur, on va l'activer pendant une heure pour ce journal inattendu. On commence évidemment par l'actualité de ce samedi 9 mars, dominée par une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. Épisode 17 à Paris, manif en cours de l'Étoile à Port-Royal. On fera un point sur la mobilisation. D'autres rassemblements sont prévus dans plusieurs autres villes, ainsi qu'au Puy-en-Velay, où la préfecture avait été incendiée. En Algérie, c'est une marée humaine qui hier a envahi les rues de la capitale et des grandes villes. Aucune violence, mais un bras de fer maintenant, clairement, entre la rue et le camp Bouteflika où apparaissent les premières divisions. Nous serons sur place à Alger. La procédure de béatification du père Hamel, assassiné il y a près de 2 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray. La session de clôture en vue de cette béatification est en cours à Rouen. Et puis la grande collecte nationale des Restos du Cœur aujourd'hui. Objectif, récolter 8000 tonnes de denrées alimentaires. Donc pensez aux restos en faisant vos courses. Le football, Lyon-Strasbourg à 17h en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Et puis le temps, Valérie Quintin, beaucoup de nuages, un peu de pluie, c'est ça?
C'est ça, et pour le soleil, cap au sud, comme d'habitude, on va avoir un temps ensoleillé cet après-midi entre les Pyrénées-Orientales, la région PACA, la Corse, le sud du Massif central aussi. Au nord, on peut espérer quelques lueurs quand même près des côtes de la Manche où le vent va se renforcer cet après-midi. Partout ailleurs, c'est vrai que ça va rester nuageux avec des pluies principalement dans l'est et dans les régions centrales. Tout cela avec des températures relativement clémentes quand même. 12 degrés attendus à Besançon, 13 à Lille, 14 à Paris, 15 à Nantes et Bordeaux, 18 à Marseille maximum pour Nîmes avec 21 degrés.
C'est bien le samedi pour vous parce que vous n'avez même pas besoin de revenir à 13h.
C'est ça.
Puisqu'à 13h, ce sera vous, monsieur Météo, tout à l'heure. Pascal Légitimus.
Le journal inattendu. entendu sur RTL.
C'est donc le 17e week-end de mobilisation pour les Gilets jaunes. Alors certes, leur objectif est d'être le plus nombreux possible samedi prochain pour la clôture du grand débat. Mais ils ont quand même l'intention de maintenir la pression aujourd'hui. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes de France. Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg notamment, mais aussi le Puy-en-Velay où la préfecture avait été incendiée au début du mouvement. Un gros dispositif de sécurité a d'ailleurs été mis en place dans cette ville. Et puis à Paris, évidemment, plusieurs rassemblements cet après-midi, notamment place de la République. Et en fin de matinée, les Gilets jaunes se sont rassemblés comme chaque samedi matin sur la place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées, pour un défilé direction Port-Royal. Nicolas Burnand, vous êtes sur place, dans le cortège. On va dire mobilisation assez faible, mais il est à noter que les femmes sont en tête.
Oui, plusieurs dizaines de manifestantes marchent derrière de larges banderoles. Égalité homme-femme pour des retraites décentes, peut-on lire sur les pancartes. Sous son gilet jaune, Madeleine porte autour du cou un foulard violet, couleur associée au féminisme. À 53 ans, elle travaille de nuit dans un EHPAD.
On a plein de casquettes et on se bat tous pour la même chose, quoi. Salaire de misère parce qu'on travaille les dimanches et les jours fériés, quoi. Comment on peut vivre avec 850 euros? Je ne sais pas si le ministre pourrait vivre avec 850 euros. Là. Qui viennent avec nous travailler aussi pour voir qu'est-ce que c'est le travail. On y laisse la santé.
Derrière, les gilets jaunes se mélangent à certains syndicats alors que les rangs sont clairsemés. On y retrouve les manifestants les plus déterminés, ceux qui sont mobilisés parfois depuis 17 week-ends pour plus de justice sociale ou le référendum d'initiative citoyenne. À une semaine de la fin du grand débat, Fabrice veut maintenir la pression sur le gouvernement.
On est tous là pour avoir justement des nouvelles résolutions. Et par rapport par exemple à l'essence qui était la première chose revendiquée, bien sûr il y en a d'autres. Alors d'aujourd'hui, on est revenu au même prix qu'au 17 novembre, voire un petit peu plus cher. Donc ça, par exemple, c'est agaçant. Et ben, ça va être de pire en pire, malheureusement. Les manifestations vont continuer et ils vont moins lâcher.
Un défilé qui se déroule dans le calme, encadré par des dizaines de gendarmes qui se déplacent à pied pour protéger par précaution les commerces le long du parcours.
Merci Nicolas Burnand. Pascal Légitimus, ce mouvement des Gilets jaunes, 17e semaine, vous le regardez de quelle manière ?
Écoutez, je le ressens comme quelque chose de tout à fait légitime, dans le sens où je comprends parfaitement ce qui se passe. Moi-même, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, c'était compliqué, j'étais un jeune acteur. Donc un café à 2,50 €, c'est compliqué. Vivre avec 520 € RSA et RMI, on est quand même très assisté. Et c'est vrai que si on appliquait un peu ce qui s'est passé dans le film Un fauteuil pour deux, c'est-à-dire qu'Eddie Murphy prend la place d'un trader et vice-versa. Donc aujourd'hui, il faudrait que nos dirigeants comprennent ce qui se passe en bas. Et je ne pense pas qu'ils pourraient assumer, comme le dit très bien cette dame, d'être très mal payé, de ne pas savoir où dormir. C'est quelque chose de tout à fait logique. Donc je pense qu'il faut un peu lever les salaires et surtout baisser les charges, tout simplement.
Tiens, dans ce contexte, il y a peut-être une affaire qui va avoir une résonance particulière, affaire des costumes de Jack Lang. Il y avait eu celle des costumes de François Fillon, on s'en souvient. L'hebdomadaire L'Obs révèle que Jack Lang, ancien ministre de la Culture, actuel président de l'Institut du Monde Arabe, s'est fait offrir entre 2013 et 2018 pour près de 200 000 € de costumes de la part du couturier Smalto. Information confirmée par l'avocat de Jack Lang, qui souligne que c'était à l'origine une initiative du couturier, Francesco Smalto, et que depuis des années, Jack Lang, en raison de sa notoriété, s'est fait offrir ce genre de cadeau, mais qu'il n'y a jamais eu aucune contrepartie. Ça vous fait rire?
Oui, parce que maintenant qu'il est directeur de l'Institut du Monde Arabe, il va commander des djellabas. Il va en profiter. Oui, mais bon, ça c'est toujours les avantages en nature. Bon, on le comprend, parce que même à notre niveau, à tous les niveaux, on a des avantages comme ça. Mais bon, c'est quand même beaucoup, 200 000 euros.
Il doit avoir quand même une belle armoire, ouais. bien garnie.
Qu'il en donne un peu aux gilets jaunes, peut-être.
Dans l'actualité également, il y a toujours une prison bloquée par le mouvement social des gardiens entamé il y a 4 jours. C'est celle de Condé-sur-Sarthe, cet établissement où 2 surveillants avaient été poignardés par un détenu radicalisé. Une rencontre est prévue lundi entre les syndicats et l'administration pénitentiaire. Et puis, il y avait beaucoup plus de monde qu'à Paris pour les Gilets jaunes hier, dans les rues d'Alger et des grandes villes d'Algérie, pour le 3e vendredi consécutif de contestation contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat. Alors, foule difficile à évaluer, car les autorités ne donnent aucun chiffre sur le nombre.
Ça prouve qu'il y avait du monde.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est sans doute la preuve qu'il y avait du monde. La presse parle d'une mobilisation sans précédent. Visiblement, le message adressé jeudi par le président algérien sur le thème « Attention au chaos », ce message n'a pas été entendu. Et l'ampleur de ces manifestations commence même à créer des failles au sein du camp Bouteflika à Alger. Pour RTL, Reda Menassel.
Nous sommes déjà à la troisième semaine de manifestation contre le cinquième mandat du président Bouteflika. Et la liste des défections au sein des soutiens traditionnels du régime ne fait que s'allonger. Abdelmalek Sleh, l'ancien premier ministre et directeur de campagne de Bouteflika, avait été l'un des premiers à claquer la porte. Il sera suivi par une longue liste de démissions au niveau du FCE, l'équivalent du MEDEF, en Algérie. Autre séisme politique, les anciens du MALG, ancêtres des services secrets algériens, qui ont apporté leur soutien en manifestation contre le cinquième mandat du président Bouteflika, en déclarant, je cite, « partager l'inquiétude et la colère du peuple devant le mépris et le refus affiché par le pouvoir face aux demandes de changement irrévocables ». De son côté, bien qu'affaibli politiquement, le président candidat ne manque pas de poids lourd à ses côtés. À commencer par le soutien de Gaït Salah, chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, celui du FLN, premier parti du pays et véritable machine à gagner les élections, ou encore l'UGTA, la très puissante centrale syndicale. De nombreux observateurs locaux s'interrogent sur la nature de ces défections, se demandant s'il s'agit de réveils tardifs ou d'opportunisme.
Alger pour RTL, Reda Menassel. Un commentaire, Pascal Légitimus ?
Oui, un petit commentaire. Ben, il est très vieux, ce monsieur Bouteflika, c'est plutôt Bouteflippé, quoi.
Allez, courte pause et dans un instant, la suite de ce journal inattendu avec Pascal Légitimus. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL, avec Pascal Légitimus et Vincent Parisot.
Moins de deux ans après l'assassinat du père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, la procédure de béatification de ce prêtre connaît aujourd'hui une étape importante. C'est la session de clôture en vue de sa béatification. En fait, c'est la dernière audience de la phase d'instruction. Un dossier de plus de 11 000 pages a été présenté à l'archevêque de Rouen, qui va ensuite le transmettre au Vatican pour que le pape rende son jugement. Donc, dans cette route vers la béatification du père Hamel, ce qui se passe à Rouen aujourd'hui est un moment fort, hein, Julien Caillard.
Oui, session de clôture très émouvante dans cette chapelle de l'Annonciation de l'archevêché de Rouen, session marquée notamment par la présence des époux Coponnet, mais aussi des trois religieuses qui avaient assisté à l'assassinat du père Jacques Hamel. L'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, a reçu le dossier original et les deux copies authentifiées de l'instruction. Un dossier de près de 12 000 pages qui tient en trois cartons et qui porte sur la vie et la mort de l'abbé victime à 85 ans de la haine. Ces cartons, ornés d'un ruban rouge, ont été scellés avec un cachet de cire pour garantir leur intégrité. Ils vont maintenant être convoyés par la route jusqu'à Rome. Et c'est tout simplement Monseigneur Dominique Lebrun qui sera le porteur officiel. Il s'est lui-même désigné ce matin.
Alors officiellement, c'est l'archevêque de Rouen, mais nous serons 40 lycéens pour porter jusqu'au pape, jusqu'à Rome, ces actes du procès.
Le père Jacques Hamel est bien en route ce midi vers la béatification, mais il va falloir patienter entre 2 ans et 5 siècles, a dit ce matin dans un sourire Monseigneur Lebrun.
Voilà, Julien Caillard pour RTL. Et puis ce samedi, c'est aussi l'occasion d'aider les Restos du Cœur, soit en achetant dès aujourd'hui le CD ou le DVD du spectacle Le Monde des Enfoirés, diffusé hier soir sur TF1, avec les Inconnus qui se sont reformés. On va bien sûr en parler tout à l'heure, Pascal Légitimus. Reformés, évidemment. Cela dit, aujourd'hui, on peut aussi donner un coup de pouce au resto en allant faire ses courses. Jusqu'à ce soir, une grande collecte nationale est organisée. Plus de 7000 grandes surfaces accueillent les bénévoles avec leur gilet rose. Alors écoutez Christian qui confie à Patrick Hisson ce qu'il achète pour les restos.
Une bouteille d'huile parce que bon, c'est des produits tous les jours, bon, un petit pois carotte parce que bon, c'est quelque chose qui passe relativement bien, et puis de l'hygiène bucco-dentaire, du dentifrice. Des produits de première nécessité parce que bon, ben, maintenant on est dans une société où ça devient un peu plus dur pour tout le monde, même des personnes qui pensaient pas se retrouver dans des situations, qui peuvent se retrouver dans ces situations. Moi-même j'ai 3 enfants, je peux aussi perdre mon travail même si je suis fonctionnaire. Donc voilà, je pense que le minimum d'humanité, c'est d'avoir la solidarité.
Voilà, la solidarité pour cette grande collecte des Restos du Cœur aujourd'hui dans plus de 7000 grandes surfaces partout en France. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter le CD ou le DVD.
Le DVD, ouais.
On évoquera évidemment cette reformation parce que c'est un événement important. Mais aujourd'hui, vous vous sentez vraiment concerné? Enfin, vous l'étiez peut-être d'ailleurs déjà.
Ah oui,
très
bien
concerné
sûr,
par ce combat des restos.
Oui, ouais. Parce que moi, avec mes camarades, on a quand même côtoyé Coluche. On a assisté à la naissance des Restos du Cœur. Donc ça, c'est tout à fait de notre point de vue, c'était vraiment quelque chose de tout à fait normal. Mais ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que les Restos du Cœur ne devraient pas exister, tout simplement.
Ce qui vous énerve, c'est que ça continue.
Ben voilà, donc c'est qu'il y a un problème en France. Voilà.
Je ne sais pas si vous êtes amateur de football, pas trop. Vous m'avez dit que vous n'aimez pas trop les sports où il y a beaucoup d'argent.
Voilà, j'aime pas les sports d'argent en général. Donc ouais. Comme le sport, enfin le foot, il y en a beaucoup. Ouais. Donc je suis un peu plus au rugby.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors
ballon ovale.
Bah alors demain, vous savez que demain le 15 de France affrontera l'Irlande.
Oula,
par exemple.
Ça va faire mal. Ça
sera pas facile.
Non.
Du football ce soir, évidemment la 28e journée et pour commencer cette 28e journée, Lyon se déplace à Strasbourg à 17h. Les autres rencontres de la soirée, Amiens-Nîmes, Dijon-Reims, Monaco-Bordeaux. Soyez à l'écoute du multiplex RTL, l'équipe de 19h30 à 23h avec Christian Olivier et Didier Roustan. Allez, non à l'argent.
C'est quand même pas toi le connard qui cherche depuis deux mois. Le type qui a pas été cherché, c'est 162 millions d'euros. C'est toi.
Je sais très bien ce que tu m'aurais dit si je t'avais parlé de mes doutes.
Oui, vas-y.
Pour l'argent, mon chéri, on réfléchira après.
Mais évidemment.
Toi-même, après l'accouchement, tu m'as dit « Enfin, je suis heureuse, j'adore ma vie, mon travail. »
Mais on dit n'importe quoi quand on vient d'accoucher.
Moi, si j'avais croulé sous les millions, j'aurais été le premier à devenir un connard.
C'est sûr que toi, t'as fait mieux. T'as décidé de devenir un connard, mais sans toucher les millions.
Non à l'argent. C'est donc reparti pour cette pièce.
Oui, hein, c'est incroyable.
Ouais, de Flavia Coste. Ça sera à partir du 20 mars au Bouffe Parisien.
Hein, jusqu'au 28 partie. Avril, voilà, une quarantaine de représentations exceptionnelles
ouais.
À cause de succès.
Avec votre maman, Claire Nadeau.
Tout à fait.
Votre copain, Philippe Lelièvre. Et votre femme, Julie Debonat, ou parfois Flavia Coste.
Hein, en alternance, parce que Julie Debonat travaille beaucoup. Voilà.
Donc vous les réunissez pour leur annoncer quelque chose de très très mal.
Bah, très très mal. Pas de mon point de vue. J'estime que 162 millions, qu'est-ce que je vais en faire? Alors évidemment, c'est une fable. Hein. Moi, ouais. Je sais très bien ce que j'en ferai aujourd'hui.
Ouais.
Mais j'achèterai beaucoup de DVD des Restos du Cœur.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. C'est un plaidoyer pour ou contre l'argent. Donc je suis tout seul, l'avocat de la défense. Et enfin, j'ai trois avocats qui m'attaquent. Et c'est ça qui est... Alors pendant 1h20, les gens me détestent.
Ouais.
Les 10 dernières minutes, ils se disent « il a peut-être pas tort ». Donc c'est ça qui est intéressant.
Parce qu'en fait, on peut se demander pourquoi il joue, si c'est pour refuser l'argent.
Exact.
Mais parce qu'en fait, il achète chaque semaine un ticket de loto, un peu par habitude, parce que son père le faisait.
Oui, c'est par respect pour son père, c'est une espèce d'affiliation naturelle, par amour même.
Mmh.
Mais pour lui, c'est anecdotique. Sauf
ouais.
Que là, il gagne.
Pas de bol.
Pas de bol.
Pas de bol, lui. 162
voilà.
Millions. Ça pose la question du mérite. De l'argent et du mérite, un petit peu aussi, non ?
Oui, oui. Puis pour lui, c'est de l'argent sale. Puis il pense que ça va détruire tout ce qui. C'est vrai que si vous aviez 62 millions, et moi je vous demande, allez, donne-moi 3 millions, Vincent. Allez, c'est quoi pour toi 3 millions ?
Bah, 3 millions quand on en a 162,
voilà.
Effectivement,
c'est
rien du tout.
Et tout est là, c'est que ça prend des proportions, puis ça détruit tout. Après, bah, évidemment, on vous embête, on vous jalouse. Donc, alors, l'argent, bon serviteur, mauvais maître.
Et si vous gagniez cette somme-là, vous achetez quoi ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Et est-ce que ça s'achète ce qui vous manque ?
Ben non, ça ne s'achète pas. Parce que je suis heureux, mais pas satisfait. C'est que dans ma vie, moi, en tant qu'homme et en tant que père de famille ou mari, ou même en tant qu'acteur, je suis satisfait.
Ouais.
Sauf qu'autour de moi, le monde est quand même assez en trouble.
Mmh.
C'est ça qui me... Voilà.
Mmh. Donc
ça ne s'achète pas.
Non,
alors faire du bien, évidemment.
Ouais,
faire du bien autour de moi.
Forcément, vos amis, quand ils apprennent ça, ils ont un peu de mal à comprendre. Parce qu'au départ, ce gain du loto, ça les met sérieusement en joie.
Est-ce que c'est vrai, d'abord ?
Oui, c'est vrai.
Okay, t'as gagné combien ?
Beaucoup.
Combien ?
Il n'ose pas le dire, c'est que ça doit être énorme.
Mais
il a gagné au loto.
Et ce qui est formidable, là, c'est que... J'imagine cette scène dans la réalité. On n'est pas dans la caricature.
Ah non,
quelqu'un qui doit gagner 162 millions comme ça, ça met tout le monde dans un état.
Oui. Un état, dans un état.
Dans un état, voilà, absolument incroyable.
Mais cette pièce est très très réaliste. Sauf qu'à un moment donné, ça dérape.
Mmh.
Parce qu'en fait, je pense que personne ne refuserait cette somme.
Mmh.
Ça n'existe pas. Alors, il faut vraiment être aujourd'hui... alors, peut-être, quand on est multimilliardaire, peut-être, c'est rien. Mais c'est une fable. Mais toutes les réactions sont légitimes, logiques. Et à un moment donné, la fin va très très loin. Je ne vous la dis pas, parce que c'est en dehors de l'entendement, cette fin. C'est pour ça que c'est très très drôle et très émouvant.
Alors, on entend là les réactions vraiment très exacerbées, évidemment, des autres. Vous, vous êtes un peu le clown blanc dans l'histoire.
Bah, pour changer, oui.
Et ça, c'est assez...
assez classique chez vous.
Bah, c'est-à-dire que dans les inconnus, c'est plutôt Bernard, c'est le clown blanc. Évidemment, on est plus les Augustes. Mmh. Là, malgré ma couleur, je suis le clown blanc, je trouve ça très très bien. Ça change un peu.
Ouais, Pascal Légitimus dans Non à l'argent. On y revient dans un instant. Le temps de savoir où placer les sous-sous, hein, parce qu'il n'y a pas que le loto, il y a aussi la roue de la fortune des inconnus.
Vous êtes un candidat fort sympathique, Gaston. Alors, vous êtes venu pour jouer, bien sûr, mais pourquoi encore, dites-moi?
Pour les sous-sous.
Oui, bien sûr, Gaston. Mais je pense que tout cet argent que vous allez gagner, un peu comme Lucienne, juste à l'instant, vous allez en faire quoi? Vous allez les placer?
Dans la popoche.
Voilà, les sous-sous dans la popoche.
Les sous-sous dans la popoche, un grand classique. Allez, on y revient dans un instant avec Pascal Légitimus. On va évoquer la reformation. Est-ce que c'était one shot, comme on dit? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Des enfoirés, on en parle tout de suite sur RTL.
Mais les sous-sous, la meilleure.
Non, ça intéresse les gens. Un grand moment pour Gaston également.
Pascal Légitimus est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Pascal Légitimus et Vincent Parisot.
Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'entende des mots qui n'existent pas dans le micro. C'est toi que je t'aime. Un jour mon coup. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est mon rose.
Alors prends-toi son main.
C'est ton destin. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a...
Et Isabelle bleu les yeux, Isabella. Hein, voilà, forcément, quelle extraordinaire surprise pour les 9 millions de téléspectateurs hier soir et tous ceux qui étaient à Bordeaux il y a quelques semaines pour le spectacle des Enfoirés, cette reformation des inconnus. On va y venir, mais juste une question tout d'abord de Sandrine Kiberlin, qui était ici même à votre place la semaine dernière.
Bonjour Pascal. C'est Sandrine Kiberlin. Je sais que tu as rejoint la bande, la famille des Restos du Cœur. Donc tu es un enfoiré comme moi. Est-ce que tu te sens maintenant faire partie de cette famille des enfoirés à vie, en espérant d'ailleurs qu'un jour on n'ait plus besoin de le faire?
Vous êtes un bel enfoiré, donc, hein, je me permets de vous le dire.
Je suis fier d'être un enfoiré aujourd'hui. Bon, voilà, de manière légitime, j'étais adoubé par toute cette troupe. C'est vrai qu'on l'était de cœur au départ, maintenant on l'est de forme. Et c'est vrai que ça fait plaisir, évidemment.
En tout cas, Pascal Légitimus, on n'y croyait plus. Moi, et vous l'avez fait.
Moi non plus.
C'est vrai. Vous ne pensiez pas que c'était possible de vous reformer avec Didier Bourdon et Bernard Campan? Comment ça s'est passé? Parce que cette reformation, ça fait des années qu'on l'attendait, qu'on l'espérait.
Nous, on se reforme. Hein, dans la vie, on bouffe ensemble. On a des réunions, des fois comme ça, à brûle-pourpoint, improvisées, où on va voir Bernard au théâtre. Voilà, bref. Mais c'est vrai qu'une manière artistique, on s'est coagulé parce que la demande était vraiment forte. Donc c'est Anne-Marc Cassius qui nous a contactés individuellement, donc je ne savais pas que les uns et les autres avaient dit oui. Et puis Bernard a dit oui, donc on s'est dit bah c'est formidable. Donc,
ah, Bernard a dit oui parce qu'en fait c'est lui qui depuis des années dit non.
Oui, enfin c'est pas qu'il dit non, il fait c'est la moitié, c'est la moitié non, c'est c'est pas tout, ouais, voilà, c'est pas ça. Tout à fait, c'est oui non, ouais. Parce que en fait pour lui, j'ai l'impression, je me mets pas à sa place, mais voilà, refaire des sketchs, voilà, c'est compliqué, ça fait 30 ans que ça dure, voilà.
Ouais, vous avez jeté un coup d'œil sur lui lorsque vous étiez, c'était à Bordeaux.
Mais évidemment, je l'ai snipé, je l'ai pas quitté des yeux, mais
parce que vous avez été accueillis comme des superstars.
Comme des êtres humains qui font du bien, hein, soyons modestes. Mais non, Bernard, oui, effectivement, il était en joie. Sur scène, il pétillait, les yeux brillaient, et puis on était heureux d'être là, ça se voyait. Et puis vraiment, enthousiaste, puis on a répété avant, on a bossé comme des chiens, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté. Donc c'est avec bonheur, tout ça avec bonheur. Et ça se sent, et les gens l'ont ressenti comme tel.
Ça doit vous donner des idées, parce que franchement, aujourd'hui, effectivement, les inconnus, c'est mythique, et c'est passé dans notre langage quotidien. Tenez.
Bah Manu, tu descends?
Et pourquoi faire?
Bah je sais pas moi, descends.
Et pourquoi faire?
Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends.
Et pourquoi faire?
Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire.
Ouais, bien sûr.
Il tire. Le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais...
Bah ouais, c'est pour la même chose, ouais. Bon,
je vous donne la première moitié d'un couple célèbre, vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez cet enfantin, on peut y aller?
Vous pouvez répéter la question?
Ah mort, lui croivez bâton. Ah mort, lui croivez bâton. Ah mort, lui croivez.
Il sait pas lire Henri XVI.
Disons qu'avec ma femme, de temps en temps, on fait une golongolo dans la case.
Ah non, mais c'est vrai, golongolo dans la case. Manu, tu descends. Manu, tu descends, on l'a entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple.
Oui, oui, bah, par rapport à Emmanuel Macron. Donc, oui, bah, c'est ça, c'est des hommages. Je trouve ça, c'est. Les gens ont intégré tout ça. C'est de l'amour pur pour nous, voilà. On le ressent comme tel.
Et ça pourrait déboucher sur quelque chose d'autre.
Écoutez, sur l'échelle de 20, Bernard était à 9. Et avant les gilets jaunes,
ouais.
Parce que le monde était un peu en Bernard, il y a plein de choses à faire, regarde. Il est monté à 10, c'est vrai que un peu énervé de ce qui se passe, parce qu'il y a des choses à faire. Et puis maintenant, après les enfoirés, il est à 12, 13, 14.
Eh ben on y croit et on l'attend, évidemment, ce retour des inconnus. On va remuer un peu du popotin avant le journal de 13h, le rappel
des
titres.
Ah ça, je sais faire, ça, là, au bout du popotin, je sais le faire. Oh.
Avec ça, vous aimez bien. Voilà, ça c'est votre choix, vous aimez beaucoup cette chanson.
Oui, elle me met en joie dès le matin. J'ai découvert ça il y a un ou deux mois sur une radio quelconque. Ouais. Et depuis c'est devenu un tube, voilà.
Lizzo avec la chanson Juice, il adore ça évidemment, Pascal Légitimus. Un morceau très feel good comme on dit, ça met la pêche. Hein,
la banane surtout, oui.
Golongolo dans la case.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h02.
Le journal inattendu de Pascal Légitimus.
13h, les titres de l'actualité.
Avec Vincent Parisot.
Eh oui, on est tellement bien qu'on a pris un petit peu de retard. Alors l'actualité de ce samedi 9 mars, c'est la nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. C'est l'épisode 17, manifestation en cours de l'Étoile à Port-Royal. Quelques centaines de manifestants. À noter qu'au lendemain du 8 mars, ce sont les femmes qui sont en tête de cortège. D'autres rassemblements sont prévus aujourd'hui dans plusieurs villes, notamment au Puy-en-Velay, où la préfecture avait été incendiée au début du mouvement. Encore une prison bloquée par le mouvement social des gardiens, entamée il y a 4 jours, celle de Condé-sur-Sarthe, établissement où 2 surveillants ont été poignardés par un détenu radicalisé. Une rencontre est prévue lundi entre les syndicats et l'administration pénitentiaire. En Algérie, c'est une marée humaine qui hier a envahi les rues de la capitale et des grandes villes. Aucune violence, mais un bras de fer de plus en plus clair entre la rue et le camp Bouteflika où apparaissent les premières divisions. La procédure de béatification du père Hamel, assassiné il y a près de 2 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray, la session de clôture en vue de cette béatification est en cours aujourd'hui à Rouen. Et puis la grande collecte nationale des Restos du Cœur aujourd'hui. Objectif, 8000 tonnes de denrées alimentaires à recueillir. Pensez donc aux restos en faisant vos courses ou alors achetez le CD ou le DVD du spectacle en vente dès aujourd'hui. Le football, Lyon-Strasbourg à 17h en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Et puis le meilleur pour la fin, c'est la météo, le temps. Monsieur Météo s'appelle Pascal Légitimus.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le temps sera nuageux et faiblement pluvieux sur les trois quarts du territoire. Au nord de la Seine, toutefois, les pluies seront un peu plus rares, voire inexistantes. À l'inverse, le soleil s'imposera cet après-midi des Pyrénées orientales à la Corse et en PACA. Les températures seront de 11 à 21 degrés entre Rodez et Nîmes. Il fera 14 degrés à Paris, Brest et Dijon. Et bien sûr, aux Antilles, 28 degrés comme d'habitude.
Comme tous les jours, évidemment. Merci, Pascal Légitimus. On n'oublie pas, évidemment, et je le rappelle, hein, que vous reprenez ce spectacle non à l'argent.
Tout à fait.
Voilà.
Au Bouffe Parisien, du 20 au 28 avril.
À partir du 20.
20 mars au 28 avril.
Le journal inattendu de Pascal Légitimus avec Vincent Parisot sur RTL.
Hey, maman, mais je t'aime.
Oh oui, et après, qu'est-ce que ça me fout?
On devrait dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux, c'est mieux qu'un beau requiem. Et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dira tant qu'il est temps.
Ah, Voilà, non à l'argent. C'est dans cette pièce que vous reprenez à partir du 20 mars, hein, que vous dites à votre mère, on vient de l'entendre, que vous l'aimez, et qu'elle vous répond, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Elle est très énervée.
Ah oui.
Non, il faut vraiment que ce soit violent et très énervé pour qu'une mère réponde lorsque son fils lui dit je t'aime maman, qu'est-ce que tu veux que ça me foute?
Mais je le comprends parfaitement. 162 millions refusés par ce type, il y a de quoi s'énerver.
Il y a de quoi énerver sa mère.
Les gens le détestent. Dans la salle, j'entends les gens qui maugréent, qui trépignent sur leur fauteuil, mais il est fou ce type. Les gens vivent avec moi.
Et puis on a enchaîné avec Patrick Fiori, cette chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. On reconnaît bien le style Goldman. Hein. Les gens qu'on aime, ça aussi, ça fait partie de...
Tout à fait. Et Fiori, c'est un ami, et puis arménien, donc corse, voilà. Donc tout ça, c'est...
Ça crée des liens.
C'est légitime.
Pascal Légitimus, vous avez choisi d'inviter dans cette émission le philosophe Gilles Verviche. Alors, dites-moi, avant de l'accueillir, pourquoi lui? Parce que c'est un ami?
Alors, au départ, c'était un inconnu.
Oui. Comme vous, hein.
Oui, tout à fait. Je suis allé dans une librairie, comme à chaque fois, je cherche un livre, donc je me guide et je tombe sur Comment je peux croire au Père Noël. J'ai lu ce bouquin en 2 heures. J'ai dit, ce type-là est formidable, il a un point de vue, il écrit, c'est drôle. Et j'avais envie de le rencontrer.
Ouais.
Parce que j'étais en train d'écrire un spectacle et je me dis, tiens, peut-être qu'il va peut-être me donner un point de vue sur l'actualité, sur la philosophie, sur des événements forts. Et puis on s'est rencontrés, je l'ai invité à déjeuner, et puis voilà, puis de fil en aiguille, on est devenus amis.
Voilà. Et après, il a fait un livre qui s'intitulait « Puis-je vraiment rire de tout ?»
Absolument.
Vous pouvez rire de tout, vous, maintenant ?
Je pense qu'on peut rire de tout, ça dépend du paquet cadeau.
Voilà. Ah, ben ça, c'est intéressant. Bonjour, Gilles Verviche.
Bonjour.
Alors, auteur de « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?» C'est votre dernier essai paru en début d'année avec en couverture Albert Einstein, façon diptyque d'Andy Warhol. Donc, le pop art pour un pop philosophe. Ça m'intéresse. Parce que vous feriez ou vous faites de la pop philosophie ?
Oui, alors j'ai pas décrété que je faisais de la pop philosophie, c'est un peu à la mode en ce moment, mais bon, bah, pop philosophie, c'est une manière un peu plus élégante de parler de vulgarisation, parce que dans vulgarisation, il y a vulgaire, il y a on simplifie les choses, donc pop philosophie, c'est peut-être 3 choses. D'abord, bah, pop art, le côté un peu pétillant, voilà, essayer de la rendre la philosophie un peu plus sexy, attractive.
Moi, je croyais que pour être pop philosophe, il fallait avoir une grande chemise blanche, mais je me trompe.
Non, mais il a de la barbe déjà. Là. Il a une paire de lunettes, il a tout déjà. Il a tout l'attirail.
Hipster philosophie. Et puis oui, partir aussi en particulier de la pop culture. Donc là, c'est pop culture, bah, c'est un peu le mélange entre le divertissement et la culture. Hein. Aujourd'hui, il y a pas mal d'universitaires, de chercheurs qui se réduisent pas forcément à une culture dite grande culture, mais qui vont chercher dans les séries télé, le cinéma. Il y avait un philosophe américain comme ça, Stanley Cavell, qui avait commencé à faire de la philo sur les films de Capra. Mmh. Et donc là, je voulais faire un essai...
Mais très drôle, hein. C'est très, très, tous ces bouquins sont super drôles.
Ah,
à part
beaucoup.
Le secret de Platon, qui est un bouquin avec une vraie histoire, un roman.
Ouais.
Mais moi, je me tords de rire, hein. C'est vraiment, ah oui,
c'est le côté pop aussi, oui, j'essaye de, enfin, parce que j'ai du mal, moi, de toute façon, à pas faire de philosophie, enfin, à faire de la philosophie sans faire de l'humour, parce qu'au bout d'un moment, les paradoxes.
Il m'a dit qu'il faisait rire ses élèves, je veux bien le croire.
oui, bah, évidemment, parce que vous enseignez dans un lycée, dans la région parisienne.
Voilà,
là, c'est
voilà,
ça.
Voilà.
Et donc, j'imagine aussi que les élèves adorent que vous preniez par exemple, une chanson, et partir de cette chanson pour
oui, voilà. Ça, tout de suite, ça donne plus envie, hein, plutôt que de leur dire aujourd'hui on va faire Kant. Je leur dis on va regarder un extrait de Game of Thrones. Alors,
ça passe mieux. Alors, par exemple, pour aller au cœur de ce nouvel essai, peut-on réussir sans effort ni aucun talent? Tiens, on peut partir de ça.
J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste.
Bon, alors on peut chanter, parce qu'on adore chanter ça. J'aurais voulu être un artiste.
Oui,
hein. Mais on peut aussi s'intéresser au fond. C'est l'idée du quand on veut, on peut, que vous battez en brèche dans cet essai.
Oui, exactement. Je pars d'une phrase de Steve Jobs, hein, qui disait la différence entre l'entrepreneur qui réussit et celui qui échoue, c'est pour moitié la pure persévérance. Alors il dit pour moitié, comme quoi la persévérance n'est pas si pure que ça. Mmh. Effectivement, il y a l'idée que donc ceux qui n'ont pas réussi, alors je me demande évidemment ce que ça veut dire réussir. Et puis ceux qui n'ont pas réussi, donc auraient simplement pas voulu, pas fait assez de d'efforts et manque de volonté. Donc dans un sens, ils méritent un peu leur leur situation. C'est un peu la phrase. Moi, je traverse la rue, je vous trouve un travail, quoi. Oui, et oui. Vous avez juste pas fait l'effort de traverser la rue.
Et ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Finalement, c'est un discours qui nous vient des États-Unis, du libéralisme, des winners et des losers.
Oui, voilà. Et puis un seul modèle de réussite, qui est celui des justement des entrepreneurs. Alors, ce qui est amusant avec cette chanson, c'est que quand je demande qu'est-ce que réussir sa vie, on voit quelqu'un qui a plutôt le modèle de réussite dont auquel Macron pourrait penser, l'entrepreneur qui gagne de l'argent. Et puis cette chanson, elle est amusante parce qu'on se rend compte que il a beau avoir réussi toutes ces choses-là, il se rend compte que c'est peut-être pas ça qu'il voulait faire dans la vie, notre chanteur. Effectivement, c'est moi, j'étais parti au départ d'une phrase de Sarkozy qui disait « Je crois au travail, à l'effort, au mérite ». Alors moi, j'ai voulu dire que je croyais au travail, puisque si on reste sur son canapé, il nous arrivera rien. Un peu à l'effort.
Bah oui, quand même.
Mais ça dépend, parce que selon les talents qu'on a, on aura peut-être plus ou moins à faire d'efforts. Et puis pas du tout au mérite, parce que le mérite, ce serait une espèce de récompense venue du ciel.
Mais pourtant, la méritocratie, ça, c'est l'égalité des chances. Enfin, si on regarde ça, j'allais dire de manière brute à la base, ce système, c'est l'égalité des chances, non ?
Bah déjà, je suis pas sûr que l'égalité des chances soit tout à fait réelle. Et puis, parler de l'égalité des chances, c'est finalement justifier toutes les autres inégalités. C'est à partir du moment où on croit qu'on a une égalité des chances, alors bah, on peut être inégaux. Et puis, c'est ce qui justifie ça, finalement. C'est-à-dire, on se dit, comme vous aviez une égalité des chances, alors, si vous êtes dans un état assez misérable, c'est parce que vous n'avez pas profité des opportunités qui vous étaient offertes.
Il y en a un qui boit vos paroles. Là, c'est Pascal Légitimus.
Je suis assez d'accord avec lui. Puis j'aime bien cette phrase qui dit que l'échec est un diplôme. C'est vrai que quand on a beaucoup de problèmes, ça nous donne peut-être plus de force pour réussir. Donc, dans les deux cas... C'est un peu la politique du bouchon de liège. Plus on l'enfonce, plus on monte à la surface.
Gilles Verviche, peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? Les mirages du mérite, c'est aux éditions Le Passeur. C'est passionnant.
Et ben voilà, merci.
Tout simplement. Merci. Et merci d'être venu ici.
Ben, merci à Pascal de m'avoir invité.
Votre copain, quand vous voyez, vous philosophez non, autour d'un...
On mange, on boit,
ouais,
on discute.
On parle de nos vies. Ça fait une respiration. Et puis
à l'occasion, parce que comme monsieur a des ambitions, peut-être un jour de
faire de la pop philosophie spectacle. Hein.
Spectacle.
Donc on a un vague projet.
Voilà, on en discute. On tourne autour. Enfin, c'est lui qui détient la clé, mais on en parle.
Et écoutez, on suivra ça de très près ici au Journal Inattendu. Merci Gilles Verviche d'être venu saluer votre copain Pascal Légitimus. On va marquer une courte pause et ensuite vous nous emmenez chez vos grands voisins.
Ouais.
Allez, à tout de suite.
Le Journal Inattendu de Pascal Légitimus avec Vincent Parisot sur RTL.
Le remède à toute cette violence, sincèrement, je pense que c'est le métissage. Ouais. Que les gens se mélangent plutôt que de se taper dessus. C'est ce qu'ont fait mes parents. C'est pour ça que j'ai la couleur entre deux chaises. Bon, vous l'avez remarqué, je suis un métis. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, petit rappel, je suis né d'un père antillais et d'une mère arménienne. Voilà. Et arménien et antillais. Je vous sens sceptique. Bon, pour ceux qui ont du mal à visualiser ce mélange rare entre mes parents, imaginez Charles Aznavour couchant avec Christiane Taubira. Alors, il faut savoir que les Arméniens et les Antillais ont un point commun, ils ont le sens de la fête. Ouais. Et du côté antillais, pour faire la fête, nous avons bien sûr le rhum. Vous connaissez le rhum ? Ouais. Et comme disait ma grand-mère, un vieil adage, si le rhum te gêne dans ton travail, supprime le travail.
Voilà, un extrait de Légitimus Incognitus. C'était votre one-man show, on dit ça. On dit
oui,
ça
bon,
comme
seul
ça.
En scène où j'avais des choses à dire. C'est un point de vue sur la société. Voilà, je voulais exprimer tout ça. Et le prochain spectacle sera sans parole. Voilà, nouveau challenge.
Comment ça, sans parole ?
Sans texte. Sans rien. Mais que du visuel.
Et c'est vrai, c'est sérieux là ?
Oui, je suis en train de l'écrire là, oui, tout à fait.
Bah, en train de l'écrire, mais pas les textes.
Si, ça s'écrit, Ouais. Je l'ai testé dernièrement dans ce spectacle là où j'ai fait un sketch de 3 minutes visuel avec une bande son, c'est comment pisser dans un toilette de TGV.
Ah oui, c'est vrai que c'est un défi.
Et c'est un des sketchs les plus drôles de mon spectacle récemment, donc j'ai dit, j'ai continué dans la même veine.
Bon, écoutez, on a hâte, hein, le prochain spectacle de Pascal Légitimus, sans parole. En tout cas, là, ce qui arrive, c'est un reportage avec des paroles sur un endroit extraordinaire. C'est vous qui nous avez demandé ce reportage, évidemment. Niché dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, près de Denfert-Rochereau, on va découvrir les grands voisins, lieu qui abrite une centaine d'associations humanitaires, des expos, des boutiques, de l'économie. l'économie solidaire. C'est vraiment à découvrir et on le fait grâce à ce reportage. Notre guide, est Violaine Ray.
Avenue d'Enfer Rochereau, au cœur de la capitale. Ici, parmi les immeubles bourgeois, trône l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul. Derrière son imposant portail de fer se cache aujourd'hui un microcosme comme coupé du monde. De grandes fresques recouvrent désormais les murs des bâtiments. Les ambulances ont laissé leur place aux créations d'artistes et les urgences à une boulangerie.
Je m'appelle Jean-Philippe. Moi, j'étais en reconversion. J'ai ouvert une boulangerie ici. Grand voisin, c'est un peu une grande marmite où tout bouillonne, où on se donne les idées les uns les autres. On travaille tous un petit peu ensemble. Nous, on travaille avec le restaurant, on travaille avec une structure qui fait de l'insertion. C'est comme un petit village, on se sent jamais seul.
Oui, un village avec ses rues, ses boutiques, ses jardins et ses cours où déambulent les Parisiens, les vacanciers, les étrangers, mais aussi les migrants et personnes précaires qui logent ici. Florie est membre d'Aurore, l'une des associations à l'initiative du projet.
Il y a une partie hébergement pour des personnes en situation de précarité, avec tout un volet insertion professionnelle sur le site et même un petit peu plus largement vers l'extérieur. Une partie avec des structures qui sont installées dans des locaux et qui développent leur activité professionnelle. Et enfin, il y a le volet ouverture au public. C'est un projet de mixité des publics et des usages. Entre le moment où l'hôpital a fermé et le futur projet qui est un projet d'éco-quartier, on teste un peu de nouvelles façons de voir la ville aussi. On préfigure en quelque sorte le futur quartier aussi.
Ici, le social est au cœur de chaque initiative, comme au restaurant L'Oratoire tenu par Chloé.
Tous les jours, un menu à 10 euros. On fait aussi plein de choses ici. On fait de l'insertion professionnelle pour les résidents du site. On peut offrir un café à son voisin avec les systèmes de café suspendus. On peut payer son café à un ticket de métro qui sera ensuite redistribué à des personnes qui en ont besoin. On fait plein de choses ici.
Un projet qu'apprécie grandement Marie, touriste québécoise de passage à Paris.
J'adore, j'aime l'énergie, j'aime... Ouais, je trouve ça chouette. Ça pourrait être inattendu, c'est inattendu, ouais. Mais c'est authentique, donc c'est ça qui est chouette.
Face au restaurant, une ressourcerie a pris vie en lieu et place de l'ancienne chapelle de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est Sabine qui nous accueille.
On collecte tout ce que les gens ne veulent plus. Une personne avec énormément de moyens peut s'acheter un truc à 3 euros et une personne qui n'a absolument pas les moyens peut également le faire. Donc je trouve que c'est ça qui est sympa parce que du coup, on se retrouve avec des gens hyper différents mais qui, je sais pas, dans le rayon fringues, vont se donner des conseils. C'est encore mieux, quoi.
Dans quelques mois, les grands voisins fermeront leurs portes. En 2020, ils céderont leur place aux travaux, à ceux d'un nouveau quartier.
Voilà, pour ce reportage signé Violaine Ray. Donc c'est éphémère, mais on sent toute l'énergie qu'il y a derrière ce lieu.
Oui, c'est un endroit très 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 fort, parce que moi je l'ai découvert à travers un documentaire des Golden Moustaches, qui s'appelle ouais. Allons Enfants, auquel j'ai participé. Et j'avoue que je dis voilà, ça c'est une action utile et nécessaire. Il y a quand même des choses belles en France, notamment à Paris entre autres, mais en France. Et celle-là fait beaucoup de bien.
Il faudra leur trouver un lieu,
ils vont délocaliser bientôt en 2020, donc il faut trouver plusieurs mètres carrés pour loger tous ces gens qui sont vraiment fantastiques.
Partir, venir, mourir, courir. Partir, venir et mourir. Écoute, chérie, j'ai pas eu le temps. Écoute, chérie, je t'ai dit non. Écoute, chérie.
Ça rentre dans la tête, hein, au bout d'un moment.
J'ai découvert ça à la radio et je trouve que ça c'est comme un sketch pour moi. J'ai l'impression qu'on parle d'un pervers narcissique qui manipule sa gonzesse. Et, ouais. Enfin, si j'ai bien compris le thème de la chanson, mais en tout cas, je l'ai ressenti comme ça.
Ouais.
Et puis, ça rappelle les années 80 un peu, ce rythme.
Ouais. Ça a une sonorité vraiment assez années 80. Écoute chérie par Vendredi sur mer. Autre titre donc choisi aujourd'hui par Pascal Légitimus pour ce journal inattendu qui va s'enchever dans 9 minutes. Donc, on se dépêche parce que dans un instant, il y a une surprise. Une bonne surprise.
Oh, chouette.
Pascal Légitimus est l'invité du journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Pascal Légitimus avec Vincent Parisot sur RTL.
T'as déjà été dans un restaurant chinois ?
Ouais.
T'as déjà fait la différence entre leur couteau et leur fourchette ?
Ah, honnêtement.
Et les mecs, ils les mettent dans la même main. Je sais pas comment ils font. Hein.
C'est non, vicieux, ça. C'est vicieux, ça. Écoute, je vais te donner une petite anecdote. Hein. L'autre fois, je pissais dans le truc, là. Comment,
ouais, j'ai entendu comment la Vespasienne.
C'est
la
ça, Vespasienne. Ouais. C'est un nom d'origine latine.
Ah ben, non, tu le dis.
C'est servé.
Écoute, tu me crois, mon frère. La Vespasienne, là, trois jours après, restaurant chinois.
C'est pas vrai.
Péter.
Ils nous envahissent.
Ils nous envahissent. À force, on n'est plus chez nous. Nardine-moi.
C'était juste pour le plaisir, les inconnus au bistrot. Pascal Légitimus, donc de retour sur scène dans Non à l'argent pour la reprise de cette pièce au Bouffe Parisien. Pascal, c'est l'heure du coup de fil surprise. Quelqu'un que vous connaissez bien.
Ah, j'espère.
Que vous aimez bien.
J'espère.
Et qui est avec nous au téléphone, à vous de reconnaître. Bonjour, invité surprise.
Bonjour.
Alors, est-ce que sur ce bonjour, vous l'avez reconnu?
C'est une femme, je pense,
oui,
déjà.
Oui, c'est une femme. Voilà. Vous êtes... C'est votre première rencontre, invité surprise, remonte quoi, 1980, 81, c'est ça?
82.
82.
Enfin, 82,
ouais.
82, ouais. Wow. J'ai connu beaucoup de personnes, notamment au théâtre de Bouvard, j'en avais pas mal de...
C'est peut-être une piste, d'autant que vous vous êtes quand même retrouvés à plusieurs reprises ensemble, et notamment sur la scène pour jouer Nuit d'Ivresse.
Ah chouette, oui,
vous voyez
Michael Barney. la grande et sublime, elle a un spectacle extraordinaire. Hein. Là, je vous...
Vive demain.
Ah non, je l'ai vu, c'est plein d'émotions, c'est drôle, puis c'est inventif, c'est visuel, enfin bon, j'ai kiffé.
C'est sur la scène du théâtre des variétés, ouais, jusqu'au 20 avril. Bonjour Michel Bernier.
Bonjour. Hi Pascal Légitimus.
Merci Michel d'être toujours là quand il faut. Merci.
C'est vrai qu'elle est toujours là quand il faut. C'est comme ça qu'on reconnaît les amis. Hein.
Des fois, on me demande souvent à qui tu penses, quelqu'un que tu aimes bien. Alors je pense à Michel, évidemment. Alors j'ai d'autres personnes, mais Michel revient souvent parce qu'on se connaît depuis tellement d'années. Puis on a une espèce d'affinité comme ça, une amitié passive et latente, mais pudique à la fois. Mais c'est une personne tellement belle intérieurement, je veux dire, c'est une fille qui est formidable, que voilà, je sais pas quoi dire, voilà, je l'aime beaucoup tout simplement.
Mais alors vous savez qu'en général, en général, c'est plutôt l'invité surprise qui dit du bien de l'invité du.
Je vais pas la frustrer.
Mais je peux dire du bien de Pascal, il y a pas de problème.
On s'est pas trop trompé dans le portrait qu'on a dressé depuis le début de cette émission sur le regard qu'il a sur la vie, sur les choses, sur une forme de sur son l'intelligence et la générosité du personnage.
Mais Pascal est un amoureux de la vie et des gens. Et tout ce qu'il veut dans la vie, c'est de rendre les gens heureux. Mmh. Alors, il fait tout pour ça. Il nous explique la vie. Des fois, on se fout un peu de lui, mais bon, c'est pas grave. On sait qu'il le fait avec tellement de sincérité. En fait, il voudrait le bonheur de tout le monde. Et avec une lucidité, quand même. Mais c'est un mec formidable, drôle. Mmh. Et c'est vrai, c'est un ami de toujours, quoi.
Ben oui, voilà, parce que 1982, ça remonte quand même. Hein,
oui, au début, on se connaissait pas, et puis ça s'est fait progressivement. Et puis le fait qu'on joue ensemble, ça a scellé notre amitié.
Ils sont amis dans la vie. Sur scène, vous pouvez aller les voir, évidemment. On vient d'en parler. Vive demain jusqu'au 20 avril, Michel Bernier, au Théâtre des Variétés. Puis à partir du 20, Non à l'argent.
C'est une pièce extrêmement drôle, c'est vraiment super. Oui. Avec.
Si vous gagnez 162 millions, Michel Bernier, vous gardez ou
mais
vous laissez
l'argent?
Elle
les a déjà.
C'est
ça. Je sais déjà, je ne sais pas quoi en faire.
Merci Michel Bernier, merci beaucoup Pascal Légitimus.
Merci Michel. Ouais. Je salue Philippe Lelièvre, Claire Nadeau et Julie Debonac, Flavia Coste et toute la troupe.
Merci.
Et Richard Cayatte, le producteur.
Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, nous serons avec Zep. Le papa de Titoff,
oui.
Vous savez, il sera à votre place ici même. Dans un instant sur RTL, Jean-Alphonse Richard, confidentiel, consacré aujourd'hui à Nathalie Wood. À la semaine prochaine.
RTL, le journal inattendu.